Alors voilà, quelque chose de moins connu. Quand on quitte Mars, avant d'arriver à Jupiter, à la prochaine planète, donc à Jupiter, il y a la ceinture des astéroïdes. Ils sont combien? Bon, pour l'instant, on en a compté 200 000, mais il y en a certainement des autres. Alors, on dit que c'est une planète qui a explosé ou qui n'a pas pu se former parce qu'elle est trop proche de Jupiter, qui est quand même un gros monsieur qui casse tous ceux qui lui tombent sous la main. Mais en réalité, si on mettait tous ensemble ces astéroïdes, on obtiendrait la moitié de la Lune à peu près, en taille. Néanmoins, pour nous, je ne dis pas qu'il faut se méfier parce que c'est un peu ridicule, mais ensemble, les plus gros, si vous voulez, il fait 1000 km de diamètre. Hein. Et puis, on en a compté 16 avec des diamètres qui vont jusqu'à 240 km. Et puis, pour nous tuer, il suffit de bien moins. Hein. Un météorite de quelques kilomètres de diamètre, ça fait déjà de beaux dégâts. Donc, on a tout ça qui tournique autour de nous. De plus, si vous voulez, Jupiter amène avec soi deux drapeaux d'astéroïdes, si vous voulez, qui sont figés dans leur position autour de Jupiter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un cortège. Hein. Donc lui, il amène avec lui, ses propres astéroïdes qui s'appellent Trojan, ou Trojan, je ne sais pas. Et si on veut les situer, on peut dire qu'ils vont... Donc on a des astéroïdes entre 2 et 5 unités astronomiques. Je rappelle, la Terre est à une unité astronomique, Mars est à une et demie, à 2, on commence à trouver des astéroïdes et on en trouve pratiquement jusqu'à Jupiter, qui lui est à 5 unités astronomiques. Et voilà le travail. Ça, c'est une carte réelle. Hein. Donc, on voit les rochers et on met un point. Ce qui faisait dire au pauvre Newton, qu'il fallait que Dieu règle un peu le système de temps à autre, parce que tout ça, si vous voulez, a un comportement chaotique, ne suit pas les belles lois de Kepler, etc. Voilà des astéroïdes pris au milieu des autres. Ils n'ont rien de très spécial, sauf qu'il y a des sondes qui sont passées tout près, en voulant ou ne pas en voulant. Et nous arrivons à notre géante, donc Jupiter, qui fait 11 fois la taille de la Terre. Et qui a une température, pour ceux que nous pouvons juger, en haut, il a une température de moins 150 degrés. En réalité, on pense que dès qu'on descend, la température est beaucoup plus importante, beaucoup plus haute. D'autant plus que Jupiter dégage 2 fois la chaleur qu'il reçoit du Soleil. Donc il y a quelque chose à l'intérieur qui chauffe. Alors, est-ce qu'il y a quelques petites réactions nucléaires? Est-ce que c'est encore l'effet des condensations qui génère de la chaleur? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que à l'intérieur, il y a des températures tout à fait comparables à celles de la Terre. En revanche, il n'y a pas de solution de continuité entre la partie gazeuse et la partie liquide. Jupiter a un noyau solide comme la Terre. Mais entre les gaz, les liquides et la partie solide, il n'y a pas une surface comme nous l'avons sur la Terre, si vous voulez. Alors, il y en a qui ont imaginé qu'il peut y avoir des immenses méduses qui se baladent dans les liquides de Jupiter. Voilà, par exemple, l'anneau de Jupiter. Je vous avais dit que les planètes gazeuses ont des anneaux. Vous voyez la densité 1,3, ça correspond à la densité du Soleil. On avait dit tout à l'heure 1,3, 1,4. Les lunes, on ne les compte plus parce qu'à un moment donné, il faudrait... Il y a tellement de choses autour de Jupiter et aussi autour de Saturne, etc. Il faudrait commencer à se mettre d'accord sur ce qu'on appelle une lune. Hein, parce que ça va des gros rochers aux petits rochers, etc. Mais il a en tout cas trois lunes qui sont plus grandes que notre lune. On va le voir tout à l'heure. Alors Jupiter, il a une partie gazeuse à l'extérieur. Il a une partie liquide. C'est de l'hydrogène liquide, hein, la partie en beige, qui devient ensuite... Le noyau qu'il y a à l'intérieur, ça correspond à la Terre. C'est la même composition que la Terre. Il fait quand même 10 fois la Terre, mais il est là. Saturne, dix unités astronomiques, il tourne sur lui-même assez rapidement, donc 9h30, et de ce fait, il est assez aplati. La composition est toujours la même, de l'hydrogène et de l'hélium. La température est un peu plus froide, mais pas beaucoup, que celle de Jupiter. La taille est un peu plus petite que celle de Jupiter, mais pas beaucoup. La composition, je ne l'ai pas donnée parce qu'elle est à peu près comparable. En revanche, il est beaucoup plus léger. Il fait même pas la densité de l'eau. Et il a une trentaine de satellites à son tour. On va les voir tout à l'heure. Et ici, on a Uranus. Et après, on aura Neptune. Alors, Uranus, c'est intéressant parce qu'il fait 4 fois la taille de la Terre. Mais si la Terre avait conservé son hydrogène et son hélium, au lieu de les perdre parce qu'elle était trop chaude, elle aurait exactement la taille d'Uranus. C'est-à-dire que le noyau d'Uranus, la partie solide, correspond exactement à la taille de la Terre. Au fur et à mesure où on s'éloigne, donc je vais amener là la Terre pour comparaison, et au fur et à mesure où on s'éloigne du Soleil, les températures diminuent tout doucement. Alors ici, vous l'avez photographié 2 fois parce qu'il y a des taches en surface, il y a une tache qu'on appelait scooter. Donc, on a photographié 2 fois pour montrer la tache qui court autour. Et Uranus, comme je vous avais dit, il est couché sur son orbite, pratiquement. Alors, me rappeler que la Terre, la Lune par rapport à la Terre, si vous voulez, elle est spéciale par rapport aux autres planètes. Parce que la Lune tourne autour de la Terre, mais pas en respectant l'axe de la Terre. Elle tourne autour de la Terre en restant sur les plans de l'écliptique, c'est-à-dire dans les plans dans lesquels toutes les autres planètes tournent. Je ne sais pas si c'est assez clair, hein. Les planètes tournent pratiquement toutes dans le même plan autour du Soleil. Mais les satellites de ces planètes, si une planète est couchée, les satellites sont couchés aussi. Ils tournent autour de la grande toupie. La Lune, non. La Lune est dans le plan de l'écliptique. Ce qui fait de grandes discussions sur l'origine de la Lune, d'ailleurs. Neptune, très semblable à Uranus, en composition, en température, en période et tout. Je passe sur... Désormais, on est à peu près établi sur des densités qui vont entre 1,5 et 2. Et là, nous avons la composition. Et à l'intérieur, comme je vous disais, il y a la Terre. Vous enlevez l'hydrogène, vous enlevez l'hélium. Donc, finalement, si la Terre avait été un peu plus loin du Soleil, elle aurait la taille de Neptune. Mais nous sommes contents comme c'est. Donc ici, nous avons de l'hydrogène, de l'hélium, un peu de méthane, de l'eau, de l'ammoniac, etc. Et dans la deuxième séance, nous verrons pourquoi il y a du méthane, il y a de l'ammoniac, etc. Parce que quand on met en présence certains éléments, on ne peut avoir que ça. Donc Pluton... Il est très loin. C'est la plus éloignée. On n'en sait pas grand-chose parce que pour l'instant, je ne crois pas qu'il y a des sondes qui sont arrivées jusque-là, sauf erreur. Donc, on n'a pas vraiment des images. On a des images prises au télescope comme ça. Il a un satellite qui est assez grand par rapport à la taille de la planète. Mais en revanche, Pluton, on va faire tout de suite une comparaison avec les autres lunes du système solaire. Et vous verrez que Pluton, il fait triste figure. Bon, on arrive à 2 comme densité, donc c'est de la glace hein, et avec un peu de rocher. Alors, on n'a pas fini parce que... À l'extérieur de Pluton, au-delà de Pluton, si vous voulez, il y a encore des astéroïdes où, cette fois, on les appelle plus astéroïdes, on les appelle, comètes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être vraiment des rochers solides, c'est des boules de glace et de sable. Mais il y en a tant qu'on veut. Donc, il y a d'abord une ceinture qui s'appelle la ceinture de Kuiper. Qui va quand même jusqu'à une centaine d'unités astronomiques. Et puis autour de tout ça, il y a les nuages de Oort qui arrivent jusqu'à 50 000 unités astronomiques. Donc, ça veut dire que le Soleil, l'action du Soleil, arrive jusque-là quand même pour retenir tout ça. Et c'est de là que viennent les comètes. C'est-à-dire, de temps à autre, il y a une boule qui part et qui vient vers le Soleil. Et puis, elle commence à fondre quand elle approche du Soleil. Alors, en disant que nous avons terminé avec les planètes, on va voir maintenant les lunes. Laissez tomber la troisième, Mercure, parce que ce n'est pas une lune, c'est la plus petite planète. Vous voyez que la lune, Moon, elle est quand même à la quatrième place. Donc, il y a quatre lunes, et Io, Callisto, Ganymède, qui sont des lunes de Jupiter, et Titan, qui est une lune de Saturne, qui sont plus grandes que notre lune. Ensuite, il y a des autres lunes qui sont un peu plus petites que la nôtre, mais tout à fait respectables. Et vous voyez après Pluton, en avant-dernière position, qui se porte très mal dans cette comparaison, si vous voulez. Je peux avancer? Vous voulez? On y retourne, de toute façon. Alors, cette fois, on prend les mêmes et on recommence, mais on met en tête la planète, si vous voulez. Donc, la Terre a comme lune la Lune, Jupiter a comme Lune, Io, Europa, Ganymède et Callisto. Pour la petite histoire, c'est le satellite qui a découvert Galilée, qui lui les avait nommés première, deuxième, troisième, quatrième. Et puis il y a eu un autre monsieur, Simon Marius, qui a eu une meilleure idée. C'est le nom des amants de Jupiter. si vous avez regardé un peu la mythologie. Hein. Et comme Jupiter, dans la mythologie grecque, il allait indifféremment avec les garçons et les filles, on a des noms qui sont des noms de mâles ou femelles. Le monsieur qui avait commencé à donner tous ces noms, je sais pas, c'est vrai que Jupiter était un monsieur assez actif, mais je sais pas s'il se rendait compte qu'on en est à 63 satellites. Alors, je sais pas si on peut suivre ou pas. Saturne a un seul satellite, si vous voulez, qui nous intéresse parce qu'il est assez important, c'est Titan. Alors, Titan, on en a beaucoup entendu parler. Pourquoi? Parce que c'est le seul corps dans le système solaire qui a une surface solide, mais qui a quand même une atmosphère, et puis qui a des températures qui pourraient être intéressantes, c'est-à-dire qui a du liquide peut-être à la surface, pas uniquement de la glace. Et il y a un dernier satellite de Neptune qui est assez important, qui est comme taille, qui est Triton. Vous avez la Terre toujours pour comparaison. Alors maintenant, on va jeter un petit coup d'œil à l'aspect de ces satellites. Alors la Lune, déjà, bon, tout le monde la connaît, elle est déjà un peu curieuse parce que la face que nous ne voyons pas est beaucoup plus criblée que la face que nous voyons. Alors, on peut inventer des explications. Par exemple, que la croûte, comme la Lune a une bosse dans la partie qui ne regarde pas vers la Terre, la croûte est plus épaisse. Et donc, les météorites qui tombaient sur la Lune, sur la face qui nous regarde, faisaient des trous, et de ces trous ressortaient de la lave, qui donnait d'ailleurs les taches qu'on appelle mer. Et cette lave, dans un sens, colmatait les trous. Donc, effectivement, la croûte de la Lune peut faire 20 km d'un côté, puis 30, 40 ou plus de l'autre. Mais reste que, si on la voyait de l'autre côté, on ne la reconnaîtrait pas. Io. Io, c'est le satellite de Jupiter, dans l'ordre, sur Io, Europa, Ganymède et Callisto. Io, c'est le plus proche, donc lui aussi, il donne toujours la même face à Jupiter. Et c'est une espèce de fromage ou pizza. Il est tout jaune, donc c'est plein de soufre. Et il y a des trous qui font des jets de soufre qui vont en descendre 300 km de hauteur, si vous voulez. Tout ce tralala, toute cette activité est en réalité l'effet du remue-ménage qui lui fait Jupiter. C'est-à-dire, pendant qu'il tourne Io, il y a Jupiter qui continue de les tripoter, de les triturer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trous, il fait pouf! Europa. Le jour où on aura besoin de glace pour nos cocktails, on n'a qu'à aller sur Europe et à rapporter un peu. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que de la glace. Bon, avec un peu de sable quand même. Ganymède, c'est aussi de la glace, mais déjà moins évident. Parce que, je reviens un instant, la glace est auto-cicatrisante, c'est-à-dire s'il y a un satellite, s'il y a un météorite qui tombe, bon, il fait un trou, mais au bout d'un moment, si vous voulez, ça se ressoude. Là, si vous voulez, il y a des cratères qui restent quand même. Donc, il y a du terrain, il y a du rocher mélangé avec la glace. Parce que, j'ai oublié, mais les densités sont toujours de l'ordre de 2. 2, ça veut dire glace et sable, à peu près. Callisto, pas très différent de Mercure ou de la Lune, pour ce qu'on peut dire. Voilà Titan. Et on voit bien l'atmosphère, hein. Il n'y a pas de mystère. Donc, je ne sais pas si les taches qu'on voit là, on les avait prises pour des continents et des océans, mais c'est sûr que c'est le premier endroit où on a voulu aller voir qu'est-ce qu'il y a, et on y retournera même. Mais c'est du méthane, hein, c'est l'atmosphère, c'est du méthane, et s'il y a des océans, c'est du méthane, ou des... En tout cas, le jour où on n'a plus de pétrole, on pourra voir. Triton, on n'a pas beaucoup exploré, mais en somme, c'est comme la Lune aussi. Alors, comme quand on avait choisi les dates de conférence, moi, je ne savais pas encore exactement comment je distribuerais les sujets, et donc je l'ai appelé les voyages. Alors, les voyages, bon, on va essayer de faire un petit voyage ensemble sur la Lune pour voir qu'est-ce que ça donne, si vous voulez. Bon, premier réflexe, ce serait de prendre la voiture. Finalement, on se dit pourquoi pas, parce que en une heure, on est dehors, hein, c'est-à-dire l'atmosphère terrestre fait 100 km, donc si on avait une voiture qui voyage à la verticale, en une heure, on serait déjà dans l'espace. Seulement, après, pour arriver jusqu'à la Lune, la distance est de 384 000 km. Donc, il faut prendre sa patience, que ce soit en voiture ou même en avion. En revanche, les missions Apollo y arrivaient en 3 jours. Je dis que la lumière mettrait un peu plus d'une seconde, mais ensemble, de toute façon, on ne peut pas aller à cette vitesse-là. Pour aller sur la Lune, il faut bien viser. C'est-à-dire, comme on ne veut pas brûler du carburant tout le long, pour la bonne raison que d'abord on n'en a pas, et ensuite, si on accélérait tout le long, après, il faudrait utiliser autant de carburant pour freiner, parce qu'il n'y a pas de frein. Hein. Il faut juste retourner la sortie de gaz et freiner. Donc, on donne une bonne poussée au départ, puis on laisse aller dans une orbite naturelle. Et ça, c'est pas pour aller sur la Lune, c'est pour aller sur Mars. Mais au milieu, si vous voulez, au milieu, vous avez le Soleil. Hein, et le point de départ, c'est la Terre. Le point d'arrivée, c'est Mars. Mais c'est les mêmes critères. Donc, c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'on entend quand on parle de fenêtre de lancement. Parce que quand la fusée part de la Terre, la plateforme d'arrivée n'est pas dans cette position-là. Il faut compter le temps. Il faut 2 ans pour aller sur Mars, par exemple. Donc, il faut bien s'y prendre à l'avance, si vous voulez, pour être au rendez-vous. Et d'ailleurs, la première fusée qu'on avait envoyée sur Mars, on a raté la planète. Ensuite, il y en a eu une autre qui s'est écrasée carrément. La troisième est arrivée juste, mais on a rien vu parce que les parachutes se posaient sur la sonde. Donc. Alors, l'idée de faire des petits voyages sur la Lune n'est pas nouvelle. Hein. Déjà, les Grecs, vous voyez, imaginez, Lucien de Samosate avait écrit même un roman où les gens allaient sur la Lune puis discutaient des bêtises que les gens faisaient sur la Terre. C'était un bon moyen de se moquer de ses contemporains en jetant un regard détaché, si vous voulez, sur certains comportements. Les Roland furieux, je pense que vous le connaissez. Donc, Roland, qui est devenu fou, va sur la Lune pour chercher la sagesse qu'il avait perdue, qui était dans une fiole posée sur la Lune. Et alors, il s'étonnait beaucoup de trouver aussi des fioles avec la sagesse des gens qui auraient pu être sages sur la Terre. Non? Alors, il disait, mais ils sont tous fous. Et l'autre, il a dit, ben, à toi de voir. Kepler, il a un peu bouquiné toute sa vie un livre qui s'appelait Somnium, donc le songe, si vous voulez. Mais il n'a pas pu le publier de son vivant. Il avait écrit tout jeune et il avait donné une bonne idée de ce qui se passerait sur la Lune. Par exemple, il avait imaginé qu'elle était peuplée d'animaux beaucoup monstrueux, beaucoup plus grands que sur la Terre, avec des énormes jambes pour courir, pour échapper à la lumière du soleil qui avançait. Et ceux qui n'arrivaient pas, si vous voulez, à se sauver assez rapidement, alors ils n'avaient qu'à se réfugier dans des grottes, parce que sinon, ils devenaient comme des crapauds quand ils restent sur la route. Vous voyez. Pourquoi je nomme Torricelli? C'est parce que il n'est pas allé sur la Lune, hein, mais Torricelli, c'est le premier qui a mesuré la pression atmosphérique. Et c'est là qu'on a eu la révélation que l'air n'est pas infini. Parce que avant, les gens pensaient qu'il y avait de l'air sur la Lune, sur Mars, partout. Jusqu'en 1900 et quelques, on voyait des canaux sur Mars. Hein. Donc, il a fallu réaliser que s'il y a une pression atmosphérique, c'est que ça correspond à un poids bien déterminé. Donc, par-dessus, il y a quelque chose de bien déterminé. En réalité, disons que une atmosphère, ça correspond à une colonne de 10 mètres d'eau. Ou alors, on peut dire, ça correspond à peu près à 5-6 kilomètres d'air. Si la densité était uniforme. Mais, et s'il ne l'était pas, c'est donc Pascal qui a envoyé son frère sur une montagne pour voir si la pression était constante ou pas. Et il a trouvé qu'elle diminuait bien moins que prévu. C'est-à-dire que, effectivement, l'atmosphère est très étendue par rapport aux quelques kilomètres qu'on imaginait. Bon, des autres voyages fantastiques, il y a Cyrano de Bergerac, qui avait imaginé une fusée, déjà à cette époque. Et puis, on a commencé à faire vraiment des fusées. Et en 1969, comme tout le monde sait, il y a eu deux hommes qui ont débarqué sur la Lune. Je vous mets deux images parce que aux États-Unis, il y a une belle polémique sur des trucages éventuels que la NASA aurait fait des photos de la lunage, si vous voulez, du premier allunage. À gauche, vous avez une image qui est vraie. À droite, vous avez une image qui est fausse. Ici aussi, à gauche, vous avez une image qui est vraie. À droite, vous avez une image qui est fausse. Pour vous montrer comme il est facile de falsifier tout, si on veut. Et alors, il y a sur Internet, comme d'habitude, il y a des sites qui disent que c'était un trucage. On voit un astronaute qui tombe. Et puis, on voit son copain qui essaye de le relever, il n'y arrive pas. Et puis, à un moment donné, on voit l'autre qui est tiré par les dos, comme s'il y avait un fil, et hop, il se remet debout. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique, je ne veux pas dire que c'était tout faux, mais je vous le signale quand même. Alors, voyons, qu'est-ce qui nous frapperait si on pouvait aller sur la Lune? Première chose, le ciel est noir. Parce qu'il n'y a pas d'air, donc c'est l'air qui fabrique le bleu que nous voyons. Et en plus, au lieu de voir la Lune dans les ciels, on verrait la Terre. Comment on la verrait? On la voit entière ou on la voit noire, si vous voulez, et comme telle qu'elle comme pour la Lune, si vous voulez. Sauf qu'elle ne bouge pas. La Terre, vous êtes sur la Lune, la Terre est là. Vous attendez, elle est toujours là. Elle ne bouge pas. Parce que c'est vous qui... ensemble, si vous voyez la Terre, parce que si vous êtes de l'autre côté, vous ne la voyez pas du tout. Mais si vous êtes du côté de la Terre, vous êtes figé par rapport à la Terre. Vous tournez autour comme ça. De plus, la Terre est beaucoup plus lumineuse que la Lune. Pourquoi? D'un côté, elle est plus grande... environ 4 fois plus grande, mais en plus il y a un paramètre dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle l'albédo, c'est-à-dire l'albédo c'est la, la, la quantité de lumière que quelque chose, qu'une planète renvoie. Alors, la Terre, par exemple, elle a une albédo de 45. Ça veut dire que la Terre renvoie à peu près la moitié de la lumière qui lui tombe dessus. C'est comme un miroir, si vous voulez. D'ailleurs, on la voit quand elle est photographiée, elle est très brillante. Donc ça, c'est de la lumière du Soleil qui est renvoyée immédiatement. La Lune, elle a une albédo qui est de 7%. 7%, ça veut dire qu'elle renvoie seulement 7% de la lumière qu'elle reçoit du Soleil. C'est du charbon. Pour avoir 7%, il faut prendre un tas de charbon. Donc, deuxième surprise, le sol est noir. Même si dans les photos, dans les films, il est blanc comme ça, parce qu'il est blanc parce qu'il y a une lumière aveuglante, si vous voulez. Hein, si vous êtes dans une pièce, vous avez un plancher noir et puis vous mettez un grand réflecteur, le sol vous semble blanc. Vous voyez plus la couleur noire. Hein. Mais en réalité, la Lune est noire. Toujours en restant sur la surface de la Lune, bon, vous avez beau être figé par rapport à la Terre, mais vous avez quand même le jour et la nuit. C'est-à-dire que tantôt vous avez du soleil et tantôt vous n'en avez pas. Seulement le soleil, le jour et la nuit durent 15 jours chacun. Ce qui explique aussi les températures extrêmes, parce que finalement, vous n'avez pas d'air pour égaliser, parce que une des fonctions de l'air sur la Terre et de l'eau, c'est d'égaliser les températures. C'est-à-dire, si vous allez à l'ombre d'un immeuble où vous êtes au soleil, bon, il y a quand même une sacrée différence de température, mais sans l'air, elle serait beaucoup plus élevée, cette différence. Donc, sur la Lune, il n'y a ni atmosphère, ni rotation assez rapide pour égaliser les températures. Et donc, on arrive à des extrêmes. Je déconseillerais quiconque d'essayer de faire pipi sur la Lune parce qu'il va avoir des surprises. Hein? Suivant qu'il se met à l'ombre ou au soleil, mais. Ah non, à l'ombre, on se retrouve avec un glaçon au sol. Hein? Je dis rien ne bouge à la surface. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'air, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a rien. Sur la Lune, le tremblement de terre, c'est uniquement. On a mis des sismographes sur la Lune. C'est uniquement pour compter les météorites qui tombent. Donc, vous plantez une allumette dans la poussière, vous faites un petit tas de poussière, vous plantez une allumette, vous revenez dans 100 ans ou 200 ans, elle est encore là. Vous laissez un couteau, il ne rouille pas. Vous voyez? Et ils ne s'en sont pas privés d'ailleurs, parce que la Lune est déjà une poubelle. À chaque expédition qu'il y avait, au moment de repartir, si vous voulez, ils laissaient tout ce qu'ils pouvaient laisser. Les réservoirs derrière, l'affaire, tout. Donc, c'est plein de ferraille. D'ailleurs, autour de la Terre, c'est pareil. Il y a 8000 morceaux de ferraille qui tournent autour de la Terre, qui sont des restes non désirés, mais qui sont là. Sur la Lune, il y a une gravité. Forcément, il y a une gravité qui est très réduite par rapport à la Terre, un sixième. Donc, qu'est-ce qui veut dire? Si moi, je peux soulever une personne qui pèse 60 kilos, et la gravité... Un sixième, je peux soulever 360 kilos. Si je peux sauter 8 mètres en longueur, je peux sauter 48 mètres. Si je peux sauter 2 mètres, je dis en hauteur ou en longueur. Bon, alors, je peux sauter 8 mètres en longueur, je peux sauter 48 mètres. Je peux sauter, admettons, 2 mètres et quelques en hauteur, je peux sauter 15 mètres. En revanche, si vous essayez de faire un saut à ski, vous arriverez exactement à la même distance. Parce que l'élan également va être réduit. Donc vous arriverez toujours à 100 mètres. On peut faire des magnifiques plongeons parce que, évidemment, non seulement on peut sauter plus haut, mais alors le plongeur, lui, il met deux fois plus de temps à tomber. Vous voyez? Donc, en amenant de l'eau, on pourrait faire de belles choses. Et puis, il n'y a pas de résistance d'air. Donc, si on envoie une balle de tennis, elle va très loin, non seulement à cause de la gravité réduite, mais c'est parce qu'il n'y a pas de résistance. Donc, si vous voyez un chevreuil très loin, admettons à 2 km, vous pouvez lui tirer dessus avec une balle, parce que sur Terre, c'est l'air qui va arrêter les projectiles. Seulement, je vous conseille de faire vos calculs, parce que vous risquez de prendre votre projectile dans le dos. Hein. C'est long, c'est pas vrai, disons. Mais c'est unique, c'est seulement deux fois plus de vitesse qu'il faudrait, c'est pas énorme. Il est difficile de marcher normalement, ça je ne l'ai pas très bien compris. Je pense que nous avons un mécanisme pour marcher qui consiste à tomber un peu en avant, si vous voulez, et puis arrêter avec un pied. Le fait est que les astronautes, on les voit toujours sautiller comme ça. Il ne marche pas. Donc on sait qu'il est difficile de marcher, mais je ne leur ai pas demandé pourquoi. Donc il n'y a pas d'air. On a déjà dit que le ciel est noir. On voit les étoiles même s'il y a le soleil. On ne les voit pas dans les photos parce qu'automatiquement, si vous voulez, la caméra, elle prend, pour prendre une quantité de lumière raisonnable, elle ferme presque complètement. Évidemment, il ne peut y avoir rien qui vole, pas de cerf-volant, pas d'avion, etc. Il peut y avoir des fusées, en revanche. Il n'y a pas de son. Alors là, il faut faire gaffe aussi, c'est-à-dire que vous êtes en train de marcher et vous avez un rocher qui vous tombe dessus, vous n'entendez rien. Quelqu'un vous tire dans le dos, vous n'entendez rien. Vous essayez de... On fait une criade ou alors on allume une cigarette et en fait, on ne peut pas faire de feu. Et aussi, je ne sais pas vraiment bien de quoi les astronautes sont habillés parce que sur la Lune, on écope tout. Donc il y a les ultraviolets durs, si on veut, mais il y a aussi des micrométéorites, c'est-à-dire des petits grains de poussière ou de rochers, mais qui font un demi-millimètre ou un millimètre, mais qui vous percent d'une part à l'autre. Donc, il doit être quand même bien protégé. Et surtout, il y a les radiations, c'est-à-dire c'est pire qu'un réacteur nucléaire. On est mort à moins de deux, là. Donc, je pense qu'ils sont habillés très lourdement. Ils doivent avoir du plomb sur la tête ou quelque chose comme ça. Et ça va de soi que, comme avait prédit Galilée, tous les objets tombent à la même vitesse. Donc, vous prenez un bout de papier ou un plomb, vous laissez tomber, et ils tombent exactement ensemble. Ce qu'on ne pouvait pas vérifier à l'époque sur la Terre. Avant de faire le vide. Voilà. Pour aujourd'hui, ça va.